Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du Nouveau Monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous donner l'avantage de rencontrer un économiste de renom, Pierre Lemieux, qui est canadien-français et qui a fait paraître chez Les Belles Lettres « Comprendre l'économie, 400 pages, 25 euros ». Mais nous retrouvons non seulement l'économiste, mais aussi le lauréat du premier prix de la francophonie FFA Turgot, qui vient d'être remis au Sénat et dont le palmarès a été proclamé par Christine Lagarde, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Et donc Pierre Lemieux est le premier lauréat de ce nouveau prix de la francophonie qui est issu du partenariat entre le Forum francophone des affaires qui regroupe 85 000 entreprises francophones et le prix Turgot qui soulignait sa 22e édition donc au Sénat. Alors, Pierre Lemieux, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Félicitations donc pour cette brillante performance et cette reconnaissance par vos pairs. Donc, vous étiez trois présélectionnés. Et cette année, la présélection était extrêmement sévère puisque crise oblige, certainement, il y avait donc une sorte de pic de parution. Alors, quelques mots simplement pour vous présenter, puis on va parler de votre ouvrage, ou je dirais même d'une façon plus générale de l'économie, puisque votre ouvrage apprend à comprendre l'économie, nous avons tous besoin. Donc vous êtes économiste, vous êtes professeur associé au Québec en Ottawa, et on va dire que vos travaux portent sur le libéralisme, la théorie politique et l'économie. Et vous êtes un auteur confirmé, car vous avez fait paraître régulièrement, notamment chez PUF, des ouvrages sur ce sujet. Venons-en donc à votre ouvrage, Comprendre l'économie. Vous avez voulu être pédagogique, je crois que vous avez réussi. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer qu'on n'aurait pas compris sur l'économie?
En fait, j'ai essayé de faire le point sur la science économique à l'aube du 21e siècle. J'ai essayé de faire un tour d'horizon presque général de la science économique, des diverses théories économiques, de la manière dont ces théories-là s'articulent, des relations que la théorie économique entretient avec le réel, et de faire tout ça, ce qui était l'aspect un peu ambitieux de l'entreprise, de faire tout ça de manière qui soit abordable par l'honnête homme. Par l'honnête homme qui, je pense, doit être prêt à faire un effort, mais enfin, c'était l'objectif du livre.
L'honnête homme au sens 18e du siècle.
Exactement.
Hein, on se comprend. Hein,
exactement. Donc, en essayant de faire comprendre l'économie, je prends le point de vue, bien sûr, de l'économiste. Et vous savez, l'économie, c'est davantage une méthode d'appréhension de la réalité sociale, une science délimitée par son objet. Donc, enseigner l'économie, au fond, c'est montrer comment les économistes pensent. Hein. Alors, j'aborde un grand nombre de sujets, bien sûr, dans ce livre-là, d'un point de vue économique, toujours de la manière dont les économistes abordent ces sujets-là. Je promets à mon lecteur, un peu de manière un peu ambitieuse peut-être, davantage ambitieuse pour moi que pour le lecteur, que quand il aura lu et compris ce livre, il sera devenu économiste.
Oui, alors ça c'est une transition très facile que vous me faites, puisque vous savez que les économistes aujourd'hui sont un petit peu mis sur la sellette. Il y a d'ailleurs des ouvrages très, très, très sévères qui sont parus sur ce sujet. La trahison des économistes, par exemple, de Gréau. Certaines mauvaises langues prétendent que les économistes ont été inventés pour rendre les astrologues crédibles. Donc, je dis ça, bien sûr, avec un sourire, car, bien entendu, les économistes sont mes amis et je sais que ce sont des gens extrêmement sérieux. Mais on va dire que pour le grand public, effectivement, aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on connaît de la crise financière et de l'absence de prévision, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça?
Écoutez, il y a deux points, je pense, que vous soulevez, des points importants et compliqués. Je ne pourrais sans doute pas rendre justice à votre question, mais essayons de traiter les deux points. Le premier point, les divergences d'opinion entre économistes. Écoutez, en un sens, ce n'est pas étonnant. Vous savez, il y a des divergences d'opinion dans toutes les disciplines et même les sciences les plus exactes, comme la physique, où vous avez des divergences d'opinion, surtout, bien sûr, à mesure qu'on se rend aux frontières de la discipline. Vous avez aussi en économie différentes écoles. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, c'est de présenter la théorie économique la plus standard, hein, qu'on appelle la théorie économique néoclassique, hein, qui est celle qui s'enseigne, je pense, dans toutes les grandes facultés dans le monde et qui a, au cours des quelques dernières décennies, envahi presque tout l'espace économique. Et il y a des économistes qui se situent en dehors de cette tradition-là, qui, bien sûr, ne sont pas d'accord avec les conclusions, mais j'ai essayé de présenter quelque chose d'assez standard. Autrement dit, je suis dans le courant principal, dans le mainstream de l'économie. Et parfois, et là, je ne voudrais pas aller trop loin, mais parfois, les gens qui critiquent la théorie économique néoclassique sont des économistes qui, je dirais, ne sont pas de vrais économistes, hein, qui ne se réfèrent pas au corpus théorique et empirique qui nous permet de dire des choses utiles sur l'économie. Bon, le deuxième point qui est plus particulier, une fois qu'on a dit tout ça, oui, mais qu'est-ce que les économistes ont à dire de la crise ou qu'est-ce qu'ils avaient à dire de la crise? Et de ce point de vue-là, je dois avouer, mon livre n'est pas exactement un bon exemple puisqu'il a été conçu et écrit en 2007, hein, et que je n'avais pas vu la crise venir, ou au moins pas venir immédiatement. Hein. Donc, je parle peu de la crise, et en fait, je parle peu de théorie macroéconomique, hein, qui n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était le corpus généralement admis de la théorie économique standard, qui est la théorie microéconomique. Maintenant, je pense que ce que j'ai développé comme outil, développé étant un grand mot, ce que j'ai exposé, puisque ça existe déjà dans la théorie économique, comme outil économique, je pense nous sert à comprendre la crise actuelle. L'école néoclassique ou classique était du reste, c'est intéressant, mais vous savez, c'était celle que critiquait John Maynard Keynes dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, que je relis du reste ces jours-ci avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. On voit peut-être une sorte de remontée de Keynes, mais la remontée de Keynes, vous savez, on la voit essentiellement parce que les gens et les pouvoirs publics sont désemparés. Ce que les pouvoirs publics font ces temps-ci, enfin, c'est évident aux États-Unis, hein, ils le font dans le plus grand désordre, ils avancent à l'aveugle en se référant vaguement à ce que Keynes disait. C'est de l'économie, vous savez, s'il y a une sorte d'économie qui est incertaine, c'est bien ce genre d'économie-là, je pense. Mm. Bon, enfin, on peut approfondir, mais c'est un vaste sujet.
Je voulais simplement avoir eu quelques réactions là-dessus. Mais vous ne pensez pas qu'une des grandes difficultés de la science économique est probablement que la crise est un révélateur supplémentaire sur ce plan, c'est cette difficulté à prendre en compte, on va dire, les phénomènes irrationnels comportementaux de l'homme. Et c'est là la limite de la science, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mécanismes, on va dire, rationnels ou scientifiques, il y a aussi à l'intérieur de ce qui fait la matière sur laquelle s'installe la science économique, des comportements humains et des comportements humains qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à mettre en équation, peut-être.
Je reformulerai un petit peu ce que vous avez dit. Du point de vue de la théorie économique la plus, encore une fois, je pense, la plus standard, la plus classique, qu'on appelle néoclassique, du reste, la rationalité est un phénomène qui est assez général. Autrement dit, l'économiste part des préférences individuelles, quelles qu'elles soient. Que moi ou vous considérions que tel goût, que telle préférence est irrationnelle ou non, ça n'a, d'un point de vue économique, aucune importance. On part de ça, ainsi que d'autre part des contraintes auxquelles l'individu fait face, et on essaie de voir quel genre d'action il va poser et quelles sont les conséquences sociales de ces actions-là. De sorte que la subjectivité est présente partout. Vous savez, un fondement de la théorie économique néoclassique, et à vrai dire de pratiquement, enfin je dirais de toutes les écoles économiques, y compris Keynes, c'est la subjectivité individuelle, hein, le fait que les individus ont des préférences et des anticipations, hein, qui sont fondés sur leur perception de la réalité. Pour l'économiste, il n'y a pas une grande différence entre la perception de la réalité et de la réalité comme telle, puisque la réalité qui importe, c'est la perception de la réalité. C'est la réalité telle qu'elle est perçue par les individus. On le voit bien, du reste, dans une récession. Hein. Quelles que soient les causes, on peut en parler, mais quelles que soient les causes de la récession, le fait que la grande majorité des gens craignent que ce qu'ils vont produire ne pourra être échangé parce que quelqu'un d'autre aura produit davantage, amène tout le monde à produire moins, bien sûr. Et que ces anticipations-là soient dans un sens non économique, hein, d'un point de vue philosophique ou Dieu sait quoi, irrationnel, ne signifie rien pour l'économiste. Elles sont ni rationnelles ni irrationnelles, mais à partir des anticipations qu'ils ont, les individus vont poser des gestes qui sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils sont en conformité avec ces anticipations-là. Si vous pensez que tout le monde va diminuer sa production, vous n'allez pas produire davantage puisque vous ne pourrez pas vendre ce que vous allez produire.
Très bien. Mais écoutez, c'est parfait. Mais alors, peut-être que je vais vous continuer de vous amener sur ce terrain, bon, sur lequel vous avez déjà parfaitement répondu, en vous disant que est-ce que vous ne pensez pas, par ailleurs, qu'une des grandes erreurs qui a pu être commise ces derniers temps, notamment par rapport à la crise, c'est d'avoir voulu transposer dans la sphère de l'économie financière, là, pour le coup, les règles de l'économie classique? Est-ce que vous pensez que dans l'économie financière, donc dans la finance, les ajustements se font de la même manière que les principes de base de l'économie, avec donc une offre, une demande, un prix? Est-ce que sur la planète finance, les choses se passent exactement pareil?
Écoutez, je vous dirais qu'il n'y a pas de raison a priori pour lesquelles les choses se passeraient différemment. Dans l'économie financière, la seule différence que vous avez entre l'économie financière et l'économie réelle, c'est que l'économie réelle, entre guillemets, dans l'économie donc réelle, ordinaire, non financière, vous avez des échanges de biens et de services. Hein. Dans l'économie financière, vous avez des échanges de créances sur ces biens. Hein. Quand vous achetez ou que vous vendez un titre financier, vous vendez un titre qui vous donne droit à un flux de revenus d'une entreprise parce que cette entreprise-là va produire, elle, des biens et services ou détient des actifs qui gagent la créance en question. A priori, il n'y a pas de raison pourquoi cette économie-là serait différente de l'autre économie. Et à vrai dire, le point de vue que je défendrais, et que j'ai défendu d'ailleurs dans mon livre, j'ai un chapitre sur la finance, c'est qu'il y a nécessairement un arrimage entre l'économie réelle et l'économie financière, puisque l'économie financière est faite d'échanges de titres de propriété ou de créances sur l'économie réelle. Cela étant dit, j'ajouterais cependant, et là vous m'arrêterez si je m'écarte trop de notre entretien, que ce qui par contre, ou ce qui de la même manière, je dirais, est semblable entre l'économie financière et l'économie réelle, c'est que la réglementation a le même effet dans l'économie financière et dans l'économie réelle. Et contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, l'évolution de la réglementation a été tout à fait semblable dans l'économie financière et dans l'économie réelle. On pourrait parler de l'Europe ou de la France plus tard, mais vous en savez probablement davantage que moi là-dessus. Mais quand on regarde l'économie américaine, il y a eu une augmentation et non pas une réduction de la réglementation au cours des quelques dernières décennies. Entre 1960 et 2008, et là, je nous amène un peu à l'extérieur de mon livre, puisque ce n'était pas le sujet, mais c'est fondé sur les outils que je développe dans mon livre ou que j'expose dans mon livre. Entre l'année 1960 et 2008, si on additionne les budgets des organismes américains qui réglementent la banque et la finance, on obtient une augmentation de ces budgets de réglementation-là de 1100%. Donc, les budgets ont été multipliés par 12 en dollars constants. Hein? De sorte que, et quand on regarde l'évolution dans le temps, il n'y a pas eu de période de déclin. La réglementation a augmenté sur le demi-siècle de manière à peu près constante tout au long de la période. C'est la même chose qui s'est produit dans l'économie non financière.
Mais alors, si l'augmentation de la réglementation ne marche pas, si l'autorégulation ne marche pas, on fait quoi? Donc, un mix des deux, peut-être.
Ben, je vous dirais qu'on n'a pas essayé l'autorégulation.
Vous pensez que ça marche, l'autorégulation? Ben, le libéraliste que vous êtes pense ça.
Écoutez, je pense que quand on compare, encore une fois, on n'a pas essayé l'autorégulation. Depuis la Grande Dépression, et peut-être depuis la création de la Banque centrale américaine dans les années 10, on n'a pas connu de marché financier déréglementé. Le marché financier a été toujours plus ou moins réglementé. Et ce que j'ai essayé de suggérer tout à l'heure, c'est que la réglementation a augmenté de manière à peu près constante depuis les années 60, mais aussi entre les années 30 et les années 60. Mais je pense qu'on constate que quand le marché est davantage réglementé, écoutez, on n'a peut-être pas de crise économique, mais on n'a pas de croissance non plus. À partir du moment qu'il s'agisse encore une fois d'économie réelle ou d'économie financière.
D'accord. Pour vous, c'est la même chose.
Et c'est ça. Et je préfère qu'on ne fasse pas trop de différence. D'accord. Mais moins vous avez de réglementation, plus vous avez d'innovation, de création. Et par conséquent, plus vous avez de destruction créatrice et plus vous avez de chances d'avoir des cycles économiques. Encore qu'apparemment, même dans les économies communistes et d'Europe de l'Est, apparemment, il y avait aussi des cycles économiques, qui étaient peut-être davantage des cycles politiques, si on peut faire la différence. Bon, mais vous voyez, le choix, je pense, est entre un système qui est moins réglementé, qui est plus libre, et où, bien sûr, il va y avoir des problèmes, et un autre système où il n'y a qu'un problème. Et le problème, c'est l'absence de croissance économique et l'absence d'innovation. Et je pense que...
Mais est-ce que vous pensez que les États sont prêts à accepter politiquement, justement, le prix de l'autorégulation? Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'autorégulation, elle a des conséquences. Et est-ce que ces conséquences-là, visibles, alors pour le coup, sont acceptables par les dirigeants politiques?
Je ne suis pas certain de quelles conséquences vous parlez, mais oui. Si vous parlez... Écoutez, les États n'aiment pas la déréglementation.
Les conséquences sociales, puisque vous faisiez le lien économique et social. Voilà. Bon,
Mais je pense que les États n'aiment pas la déréglementation pour une raison très simple, c'est que la déréglementation réduit leur pouvoir. La finance internationale, par exemple, réduit les pouvoirs des États nationaux, c'est-à-dire rendre leur clientèle de citoyens plus captive. La limite de cela, ou enfin la limite en Occident de cela, on l'a vu en Europe jusque dans les années 80, le contrôle des changes. Le contrôle des changes est idéal pour l'État national, parce qu'il peut garder ses sujets proches de chez lui, les empêcher de fuir à l'étranger ou d'envoyer leurs épargnes à l'étranger. Mais les conséquences sociales... Je pense que les conséquences sociales de l'étatisme et de la planification sont bien pires que les conséquences sociales du libéralisme. Et je ne pense pas que la crise que nous vivons actuellement soit une conséquence du libéralisme. Je pense que c'est au contraire une crise de la réglementation. On a augmenté de manière continue la réglementation, non seulement depuis le premier New Deal de Roosevelt, mais en particulier depuis les années 60. Je vous ai donné des chiffres. Et je pense qu'un jour ou l'autre, le système devait casser. Vous savez, il ne faut pas oublier un fait fondamental. Regardez d'où la crise est partie. La crise est partie du marché de l'immobilier résidentiel aux États-Unis, qui est un des marchés non seulement les plus réglementés, contrôlés, surveillés aux États-Unis, mais dans le monde occidental. Vous savez, avant que la crise ne se déclenche, la moitié des hypothèques résidentielles aux États-Unis étaient détenues ou garanties par des sociétés d'État, ou des quasi-sociétés d'État, Fannie Mae.
Fannie Mae.
C'est ça, bon. Et l'État américain, depuis quelques décennies, encourageait les prêteurs hypothécaires à prêter à des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une maison. Bon, quelqu'un a dit hier, c'est peut-être le ministre Novelli, que c'était l'État, que c'est l'État-providence qui voulait le bien de tout le monde ou tout ça. Bon, alors, ajoutez à ça la réglementation générale de la finance. Une raison pour laquelle les banques souhaitaient tellement titriser leurs actifs, comme les hypothèques, et qu'elles voulaient échapper aux ratios de capital imposés par les accords de Bâle, puisque c'est un moyen de ne pas accroître son bilan et par conséquent de ne pas avoir à accroître son capital. Donc, vous avez toute une série de phénomènes de contraintes réglementaires.
D'effets pervers, en quelque sorte.
Oui.
D'effets pervers de la réglementation.
Exactement. D'accord. Et qui s'appesantissant de plus en plus sur les entreprises financières, à mon avis, ne pouvait mener qu'à un problème. Il y a des économistes, vous savez, du reste, j'ajoute une petite parenthèse, il y a des économistes qu'on appelle les économistes de l'école autrichienne, qui, eux, prévoyaient la crise. Le problème, c'est qu'ils la prévoient peut-être depuis trop longtemps. Mais il y a des phénomènes monétaires qui ont joué probablement aussi. Hein. La réduction, qui a été plus marquée d'ailleurs en Amérique qu'en Europe, hein, des taux d'intérêt jusqu'à 3 % ou peut-être même à 1 % en 2003, à la suite de l'augmentation de la masse monétaire au début du millénaire, qui a réduit les taux d'intérêt beaucoup et qui a bien sûr encouragé l'achat d'hypothèques et qui a contribué à la bulle de l'immobilier.
Alors, certains disent qu'une des façons de s'en sortir, c'est de contrôler les actifs autres que monétaires, notamment ceux de l'immobilier, enfin tous les actifs qui ne sont pas sous contrôle actuel.
C'était déjà un peu l'opinion de John Maynard Keynes dans sa théorie générale de 1936, hein, qui voyait dans l'épargne, en fait, dans l'excès d'épargne, selon lui, une des raisons des cycles économiques. Et bien que la théorie générale fasse référence habituellement au contrôle des cycles économiques à court terme, il dit clairement dans la théorie générale que la nationalisation de l'épargne sera peut-être utile. Le problème que ça pose, bien sûr, et le problème que toute nationalisation pose, hein, qu'est-ce qui nous dit que l'État va gérer l'épargne davantage qu'un système concurrentiel? Vous savez, la concurrence et le marché ne sont pas parfaits, c'est évident, hein? Il n'y a rien de parfait. Mais on peut par contre démontrer, je pense assez facilement, et je consacre à ce sujet-là d'ailleurs les deux derniers chapitres de mon livre, de mon Comprendre l'économie, on peut démontrer que par leur nature même, les processus politiques et bureaucratiques, c'est-à-dire l'État, hein? L'État n'est rien d'autre que des processus politiques et bureaucratiques, sont encore plus imparfaits que le marché. Et je vous rappelle qu'encore une fois, on le voit présentement sous nos yeux. Hein, les États qui, dans le plus grand désordre, introduisent des mesures mal pensées, planifiées rapidement et souvent exécutées de manière tout à fait étatique. Hein. Il y a un programme aux États-Unis là, de garantie de crédit aux particuliers, un gros programme de 700 milliards de dollars qui se met en marche ces jours-ci. Le programme a été adopté au mois de novembre. Ça a pris 3 mois à toute la machine pour se mettre en marche. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Hein. Ce sont des machines énormes où les incitations à l'efficacité sont évidemment réduites. Hein. Le fonctionnaire ne perdra pas son emploi si la crise se poursuit.
On vient de comprendre que Pierre Lemieux n'était pas un franc défenseur du tout-État, mais plutôt un partisan d'une forme de libéralisme, peut-être maîtrisée, mais d'une forme de libéralisme. Alors, nos éditeurs ont aussi compris que pourquoi Pierre Lemieux vient d'obtenir le premier grand prix de la francophonie FFA Turgot. Ils l'auront compris à travers la passion, à travers la clarté de son exposé. Et ils pourront en avoir confirmation en allant acheter très rapidement « Comprendre l'économie » paru aux belles lettres. Pierre Lemieux, on était très heureux de vous accueillir. On sera toujours très heureux de vous accueillir sur notre antenne. Merci d'avoir donné envie à tous nos auditeurs de mieux comprendre l'économie à travers votre merveilleux ouvrage. Et bravo et félicitations encore pour ce grand prix de la francophonie. Merci à vous.
Jean-Louis Chambon, merci.